Donc, à nouveau, bienvenue à toutes et à tous, et nous vous remercions de votre, à la fois votre attention et puis votre fidélité, puisque nombre d'entre vous étaient déjà présents hier. Donc, le programme de la journée, vous l'avez en ligne, hein, toujours sur le site internet du musée d'histoire, du musée national d'histoire de l'immigration. Il est également sur le site de la FMSH. Nous vous proposons en fait d'ouvrir cette deuxième journée. Alors, c'est un peu l'ironie de ces colloques Zoom, c'est-à-dire que nous devions avoir la présence de Sophie Liséon, qui est la nouvelle déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il se trouve que, comme je vous parle, elle est au Palais de la Porte Dorée pour signer le renouvellement de la convention annuelle qui lie donc l'établissement public du Palais de la Porte Dorée et la DICRA. Donc, malheureusement, elle ne peut pas être avec nous en ligne pour intervenir. Et donc, elle a enregistré une courte pastille vidéo que je vais vous passer tout de suite. Et puis après, on ira tout de suite sur la table ronde donc, de la matinée. Je le dirai, je le répéterai, et puis ce sera après Régis qui prendra la main, donc qui portera sur exposer la lutte des Noirs américains pour les droits civiques.
La lutte contre le racisme et l'antisémitisme est l'affaire de la société française tout entière. L'actualité violente et malheureusement meurtrière ne nous le démontre que trop. Les œuvres d'art, tableaux, sculptures, moulages, tapisseries, mais aussi documentaires, théâtre, danse, ouvrages, performances, comme parfois les objets du quotidien, s'adressent à l'humain dans son entièreté. Aborder la question du racisme et de l'antisémitisme à travers les expositions, c'est en faire l'expérience par le corps, le cœur et la raison. Je veux donc saluer l'organisation par le Musée national d'histoire de l'immigration et la PIRA de ce colloque intitulé Exposer le racisme et l'antisémitisme, et je vous remercie de me donner la parole pour en faire l'ouverture. Et si je ne suis pas à vos côtés ce matin, je ne suis pas très loin, puisque nous signons aujourd'hui, dans les locaux du MNHI, le renouvellement de la convention par laquelle la DICRA apporte son soutien financier au musée. Car les musées sont des acteurs essentiels de l'éveil des consciences et de la construction du libre arbitre. Parce qu'ils font en leur sein se rencontrer l'histoire et le présent, ils nous aident à questionner l'avenir. À travers la médiation culturelle, ils développent aussi notre capacité à apporter des réponses. C'est pourquoi la DICRA entend développer son partenariat avec les musées et lieux de mémoire, afin de les associer plus étroitement à la diffusion de la connaissance sur le racisme et l'antisémitisme, mais aussi la haine anti-LGBT+, leurs ressorts et leurs conséquences létales. Auprès du grand public, bien sûr, mais également des professionnels que nous formons. C'est par la connaissance, en réponse au repli, à l'obscurantisme et à la division, que nous pourrons porter plus efficacement le combat, encore plus nécessaire aujourd'hui qu'hier, pour la fraternité. Aussi, je vous souhaite de bons travaux et souhaite également qu'ils vous inspirent l'envie, l'audace, demain, d'exposer le racisme et l'antisémitisme.
Donc, je passe tout de suite la parole à la discutante Sarafila Bacca-Madio. Et vous allez peut-être, enfin, je vous propose de présenter les intervenants.
Donc, écoutez, merci d'avoir organisé cette table ronde parce qu'elle est, à mon sens, importante vu le contexte, et puis avec plusieurs collègues effectivement spécialiste du champ et on n'est pas si nombreux, alors c'est plutôt agréable. Alors je vais me permettre en fait d'introduire brièvement en fait ce qu'on a fait collectivement et expliquer en fait quelles vont être les directions et les thématiques que l'on va évoquer. Donc en fait on a effectivement travaillé ensemble ces derniers jours et ces dernières semaines pour réellement faire une table ronde, à savoir réellement avoir une distribution de la parole et aussi en pensant très pratiquement et logistiquement que une rencontre sur Zoom est plus intéressante pour les uns et les autres si on a une discussion plutôt que des présentations les unes après les autres. Et donc voilà, j'ai proposé trois, quatre pistes en fait et je remercie vraiment les participants d'avoir accepté de réfléchir à leurs travaux et leurs pratiques à travers ce questionnement qui est ouvert et qui donc est juste un point de départ pour qu'on puisse justement discuter. Alors, l'une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est important, c'est que On parle des arts africains-américains en France depuis assez peu de temps finalement. La situation s'améliore notamment grâce à deux de nos participants, Daniel Soutif et Nora Philippe, qui chacun en fait ont proposé des expositions sur les arts africains-américains. Donc Daniel Soutif, The Color Line, qui était en 2016-2017 au musée du Quai Branly. Et Nora Philippe, l'exposition Black Dolls, parmi d'autres choses, en 2018, qui était à la Maison Rouge. Et à mon sens, c'est l'une des rares fois, ce sont l'une des rares fois où on a pu avoir des travaux produits par des Africains-Américains, de l'art contemporain africain-américain, notamment dans des institutions culturelles françaises, et ce n'est pas encore très très souvent. Je vous rappelle juste au passage que l'artiste Lorna Simpson n'a pas eu sa première exposition solo a eu lieu aussi en 2018 en France, donc très tardivement. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, c'est important, à mon sens, de discuter de cela aujourd'hui. La deuxième est contextuelle, à savoir... On est dans un moment particulier qu'on a tous noté au-delà de nos pratiques individuelles, à savoir on est dans la période post-George Floyd, où effectivement son meurtre a fait se soulever des questions à travers le monde sur les représentations des populations noires, les représentations des Noirs aux États-Unis, des corps noirs, leur maîtrise et leur relation aux forces de police aux États-Unis, mais aussi le racisme structurel aux États-Unis et par extension ailleurs aussi. C'est ce moment-là de questionnement global sur quelque chose qui très pratiquement se passe tous les jours aux États-Unis depuis des décennies est particulier parce que effectivement ça pose un débat global qui est assez inédit depuis au moins 50 ans aux États-Unis et potentiellement ailleurs. Ça s'inscrit aussi dans le mouvement Black Lives Matter qui a commencé bien avant lui et tout ceci, pour rejoindre la thématique de l'atelier, est aussi lié, même si c'est pas la seule voie et les intervenants vont aussi évoquer d'autres voies, liées à les thématiques des droits civiques et de la reconnaissance des droits civiques des Africains-Américains et parmi d'autres populations non blanches. Alors, c'est une trame importante, et je vais vraiment être très rapide là-dessus, c'est une trame importante de l'histoire africaine-américaine parce que, de facto, elles ont dû lutter contre l'esclavage, la ségrégation et démontrer qu'elles pouvaient avoir accès et qu'elles méritaient d'avoir accès, parce que c'est vraiment dans cet ordre-là que ça s'est construit, qu'elles méritaient d'avoir accès aux droits civiques et à la plénitude en fait, de la démocratie américaine. Et il faut penser ça dans la longue durée, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on pense de l'extérieur aux droits civiques, on pense souvent, et comme en ce moment on est dans une résurgence de ce genre de débat, au mouvement du milieu du XXe siècle, mais ça dure depuis le milieu du XIXe siècle. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans une période où ces droits sont mis en danger. Je vous donne un exemple rapide et très pratique. La Géorgie vient de voter une loi qui restreint l'accès au vote. Et cet accès qui est le vote à distance concerne principalement les classes populaires et notamment les minorités pauvres dont font partie pour un pourcentage malgré tout important, les Africains-Américains. Donc c'est quelque chose d'important de discuter de ça aujourd'hui, de le discuter peut-être en résonance avec des pratiques et des questionnements qu'on peut avoir ici, et aussi par rapport aux arts. Donc on est parti sur la base de trois thématiques. Pourquoi ? Ce sont trois thématiques qui sont évoquées dans les travaux des artistes et par les artistes eux-mêmes, dans des discussions que les uns et les autres, par exemple, nous avons pu avoir. En l'espèce, moi, j'ai eu des discussions avec des artistes sur ces thématiques-là. Et comme ces thématiques croisent aussi les travaux de nos participants, voilà, c'était une bonne base de départ. Alors, il s'agit premièrement de représenter les expériences africaines-américaines. Deuxièmement, interroger l'histoire des États-Unis depuis un point de vue noir. Et troisièmement, prendre place dans les musées. Alors, on va discuter brièvement, à peu près 20 minutes par thématique, avec la parole circulant entre les uns et les autres. Certains d'entre nous ont quelques images à passer ou vidéos. de manière très égocentrique, je vais me passer la parole en premier pour expliquer la thématique de chaque axe. Mais avant ça, je pense qu'on va peut-être se présenter. Alors, je n'ai pas eu les biographies de tout le monde, donc on va faire simple. On va se présenter chacun notre tour et puis voilà. Allez, très honneur aux dames, Nora. Allez, vas-y.
Alors, merci beaucoup Sarah, merci infiniment de cette invitation qui est au long cours, puisqu'on aurait dû, je crois, se réunir déjà il y a voilà, quasiment un an. Et moi-même, je devais continuer en fait mon travail de recherche autour des Black Dolls, j'en parlerai plus tard, mais j'aurais voulu amener certains éléments des résultats d'une enquête en cours que la pandémie a empêché de mener à bien, mais c'est en cours, j'y reviendrai. Donc pour ma part, je suis Nora Philippe, j'ai été la commissaire de l'exposition Black Dolls à la Maison Rouge en 2018, j'ai réalisé un film à partir d'une collection de poupées noires américaines qui s'intitule Like Dolls I Rise. Je suis également, j'ai le plaisir d'être associée, chercheur associée au CNRS, au groupe MCTM. Christine Chevalon était parmi nous aussi hier, qui dirige ce groupe. Et je termine actuellement un documentaire avec Arte autour des restitutions des patrimoines africains. Voilà, donc pour cartographier les médiums que j'utilise et mes objets de recherche. Voilà.
Merci Nora. Daniel Soutif, s'il vous plaît.
Merci beaucoup aussi pour l'invitation et mille excuses pour y avoir répondu si tard et être un peu impromptu dans cette journée. Bon, moi, je vais pas me présenter très longuement. Moi, fondamentalement, j'étais professeur de philosophie, mais il se trouve que j'ai écrit sur le jazz, sur les arts plastiques, et qu'à un certain moment donné, dans les années 80, j'ai commencé à penser à une réflexion qui aurait croisé ses intérêts. Et donc, ça a donné une grande exposition au Quai Branly, mais d'abord en Italie, à Rovereto, qui était consacrée à ce que j'avais appelé le siècle du jazz. Lorsque j'ai produit cette exposition, j'ai découvert toute une réalité qui m'avait échappé, et c'est en soi un symptôme intéressant, à savoir l'existence non seulement de musiciens de jazz dans la communauté africaine-américaine, mais de grands artistes visuels. Et donc, j'avais pu déjà introduire un certain nombre d'entre eux dans cette exposition, mais je m'étais promis qu'un jour, si les choses se présentaient effectivement, je tenterais d'introduire ces artistes sur les scènes européennes. En 2013, le président du Quai Branly m'a demandé si j'accepterais de faire une exposition sur la ségrégation. Je lui avais répondu que, en tant que tel, je ne me sentais pas particulièrement apte à ce travail, mais que s'il acceptait que ce projet soit incurvé dans le sens d'une introduction justement de tous ces artistes complètement ignorés en Europe et en France en particulier, un peu moins en Angleterre, j'acceptais volontiers. Il avait accepté cette portion de son idée initiale et ça a donné The Color Line qui m'a permis d'approfondir cette connaissance pour moi d'abord, mais aussi pour tous ceux qui ont pu voir l'exposition. Voilà.
Olivier Mayo.
Oui, bonjour. Alors, je remercie aussi les organisateurs de ce colloque qui est passionnant. Là, j'ai suivi la journée d'hier, c'était vraiment très stimulant. Et les participants à cette table ronde, là, je suis ravi d'échanger avec vous. Et alors, de mon côté, donc, je suis Olivier Maillot. Je suis actuellement, après des recherches en thèse sur essentiellement le mouvement des droits civiques des années 60-70, je suis actuellement dans une recherche postdoctorale sur deux musées africains-américains, qui sont deux musées qui ont été fondés précisément dans la période du mouvement des droits civiques dans les années 60, et dont la particularité est d'avoir été initiée et développée par une partie du mouvement noir-américain. Voilà. Ces musées sont le Disabled Museum à Chicago et le Anacostia Community Museum à Washington. Voilà. Et donc, je travaille actuellement là-dessus. Voilà. Et donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets.
Merci. Bon, alors moi, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Sarah Fila-Bakabadio, oui, quand même. Sarah Fila-Bakabadio, je suis maîtresse de conférence à l'université qui s'appelle désormais CY Sergi Paris Université. Ne me demandez pas pourquoi. En histoire américaine et africaine-américaine particulièrement, je travaille alors initialement sur les nationalismes africains-américains, années 60, années 70. Et mon terrain d'étude est l'Atlantique noir, donc en bref, les relations des Africains-Américains avec d'autres populations noires, notamment en France et en Afrique. Et je travaille ça par le biais de l'histoire politique, des arts, notamment des arts visuels un petit peu, de la danse, parce que j'étais danseuse avant, et puis du corps noir et de la beauté, voilà, pour faire très court. Alors, on va peut-être commencer avec la première thématique, représenter les expériences africaines-américaines. Alors, je vais prendre 5 minutes et comme ça, chacun a ses 5 minutes de discussion. Pourquoi cette question? Parce qu'effectivement, dans des discussions que j'ai pu avoir régulièrement avec des artistes et notamment africains-américains, la question de la représentation, notamment dans un musée, était une question. Qu'est-ce qu'on représente? Qui? Comment, quelles œuvres et qui choisit ces œuvres, avec quelle intention. Et donc, il se posait la question de la narration qui était proposée par. Merci pour Bernie. De la narration qui était proposée, en fait, dans les installations dans lesquelles leurs œuvres étaient présentées. Qu'est-ce qu'on disait de leur histoire, de leur contexte artistique et politique, en représentant ces œuvres associés, par exemple, si on faisait une exposition sur racisme ou antisémitisme, voilà, avec quoi? Et aussi, l'autre question qui était posée, c'était quels moments historiques sont représentés? Et ça, c'est quelque chose qui revient fréquemment et aussi dans mes propres travaux en tant qu'historienne. Ça veut dire l'histoire africaine-américaine a tendance à être réduite à des temps particuliers, l'esclavage, la ségrégation, la déségrégation, et puis après, il y a quelques trous parfois. Bon. Et donc, eux s'attachaient en fait à une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus multiple, avec des communautés africaines-américaines qui ne sont pas que des descendants de personnes mises en esclavage, mais aussi des afro-descendants caribéens, latino-américains. Donc, dans africains-américains, pour eux, ça voulait aussi dire ça. Et donc, ils se disaient qu'on avait peut-être tendance à les réduire à des attendus, et donc à une fonction de réponse au racisme par le choix des œuvres qu'on leur demandait de présenter. Donc ça, c'est l'idée de représenter ces questionnements vient de là, et aussi de leur envie de représenter vraiment du vécu, du très quotidien. Par exemple, Kerry James Marshall, qui représente des scènes du quotidien, qui sont magnifiques, je vous invite à regarder sur Internet, ne parle pas tant que ça de racisme, mais il l'évoque par la vie quotidienne, par une scène d'une dame qui peut tresser sa jeune fille, de rencontres entre des individus de la communauté. Voilà. Et donc ça, c'était une voie par laquelle, en fait, les uns et les autres considéraient que c'était peut-être une manière d'épaissir un peu un récit qui les réduisait parfois à quelques moments reconnus de manière nationale et internationale comme des artistes répondant au racisme. Et donc, je pense que les intervenants vont en parler aussi. Un dernier point, une partie d'entre eux, en fait, retravaille et retourne le stigmate en essayant, en fait, de se représenter. Donc, cette fois-ci, en deux mots. On se souvient tous, ou du moins pour une partie d'entre nous, que l'un des grands acteurs de cette pratique a été Frederick Douglass, abolitionniste, esclave, puis abolitionniste, qui a utilisé la photographie pour se représenter le corps noir, à savoir les images photographiques disponibles, donc on est au 19e siècle, disponibles à cette époque-là, sont des photos de corps esclaves. On se souvient aussi de la photo de Jenkins, donc l'esclave, qui est de dos, qui montre en fait les marques laissées sur son dos par les coups de fouet. Et lui, Douglass, travaille la photographie justement pour montrer comme humain, comme homme, et comme homme, alors capable de s'intégrer à un modèle américain aussi, puisqu'on est quand même dans l'idée de upward mobility à cette époque-là. Je pense que Olivier Maillot évoquera aussi la question. Et donc, ça, c'était l'une des raisons, en fait, pour lesquelles je me suis dit que peut-être que ça pouvait être une entrée dans la mesure où je crois, et vous allez, chers participants, me dire si je me trompe, que cette question a dû être aussi discutée par vous, par l'intermédiaire de la présentation de certaines œuvres, soit par des discussions comme j'ai pu avoir avec des artistes sur leurs attendus et parfois le décalage entre leurs attendus et ce qu'on leur proposait comme cadre dans une institution culturelle. Voilà, mes 5 minutes sont quasiment passées, donc du coup, je vais passer la parole à qui veut d'ailleurs.
Si vous voulez, je peux la prendre.
Je vous en prie.
Je voudrais d'abord dire une chose liminaire concernant le projet qui était Colorline. Son ambition n'était pas spécialement ni premièrement de parler des questions de racisme, des questions de droit civil, des questions de ségrégation, même si le mot ségrégation figurait dans le titre de l'exposition. L'ambition était vraiment d'introduire en France, en Europe, donc des artistes qui étaient à peu près méconnus. Donc, c'est compléter une histoire pleine de trous, en quelque sorte, en tentant de raconter, grosso modo, un siècle et demi d'histoire de l'art africain-américain. Alors, naturellement, en faisant ça, on était obligatoirement conduit aux problématiques que vous évoquez, en particulier la question de la représentation des Africains-Américains dans des œuvres, puisque nombre des artistes qui étaient présentés dans l'exposition répondaient à ce type de problématique. L'art, la grande histoire de l'art américaine ou européenne était centrée sur toutes sortes d'autres préoccupations que celle-ci. D'abord, il y avait une forte prééminence, des arts non figuratifs au cours du XXe siècle. Moi, quand j'ai commencé à prendre connaissance des œuvres des artistes africains-américains, j'ai vite compris qu'une part de leur travail, pas automatiquement l'intégralité de leur travail, loin de là, était consacrée à une auto-représentation, en quelque sorte, de la collectivité à laquelle ils appartenaient. Et du coup, la réflexion sur les stéréotypes, la réflexion sur la manière dont les artistes déconstruisaient ou démolissaient les stéréotypes, elle était forcément impliquée dans le projet de l'exposition. Et du coup, moi, j'ai été amené à me poser des questions assez précises que tout le monde se pose. Que faire justement de toutes les représentations racistes? Que faire des représentations des Noirs américains qui les présentaient, notamment à la fin du 19e siècle, de façon odieuse? Vous savez que il y a toute la question du blackface, par exemple, qui ne pouvait pas ne pas traverser le projet de l'exposition. Il y avait la question de toutes les caricatures à la fin du 19e siècle. Vous savez probablement tous qu'il y a eu cette mode de ce qu'on a appelé les kunstfongs. Toutes ces images, c'est pas peu d'images, c'est énormément d'images, évidemment, sont des images qui sont devenues extrêmement problématiques. Que fallait-il en faire? Fallait-il les montrer? Ne fallait-il pas les montrer? Aux États-Unis, par exemple, probablement, on préfère en général choisir de ne pas les montrer, même s'il y a des exceptions à ça, ce n'est pas si simple. Moi, en tout cas, j'ai considéré qu'on ne pouvait pas faire l'économie de la monstration d'un certain nombre de ces images, parce que sinon, l'opération de déconstruction opérée par les artistes noirs eux-mêmes est à peu près incompréhensible, parce qu'il lui manque la référence à ce qui est déconstruit. On a, avec mon assistante Diane Turchetti, décidé à un certain point qu'on allait faire une section qui était consacrée, c'était la deuxième section de l'exposition, à ce type de problématique, et dans laquelle on a choisi délibérément confronter des représentations absolument racistes, stéréotypiques, relevant du phénomène du blackface en général, les partitions de kunstsongs et choses de ce genre, et d'en montrer un certain nombre. Alors, au passage, je signale que Pendant le montage de l'exposition, il y a une conservatrice américaine du musée de Détroit qui est venue. Elle accompagnait une œuvre importante que le musée prêtait. Et il s'agit du petit tableau de Robert Bukhansan qui était à l'entrée de l'exposition et qui est consacré à l'oncle Tom et la petite demoiselle blanche dont il a la charge, un très joli tableau. Et cette dame qui se trouvait être donc responsable de la section africaine-américaine du musée de Détroit, qui était un des premiers musées à avoir comporté une section de cette nature, elle se promenait, l'exposition était colorée, était déjà à peu près montée, et quand elle est arrivée dans la section que j'évoquais tout à l'heure, elle m'a dit être surprise du fait que j'ose montrer des images de ce genre. Mais elle n'était pas, elle était ni scandalisée, ni hostile au choix de l'avoir fait. Moi, je lui ai répondu ce que je suis en train de dire encore maintenant, à savoir que je comprends mal comment on aurait pu faire comprendre la nature précise des travaux des artistes africains américains eux-mêmes sans cette référence. Si je peux, je peux vous montrer une ou deux images. Voilà, ça c'est, je ne sais pas si vous voyez ça bien.
Oui.
Oui, c'est l'entrée, c'est le panneau explicatif de l'entrée de la section en question. Et comme vous voyez, on avait appelé cette section « Minstrels, Blackfaces, Vaudeville ». Et il y a sur la gauche de l'image une série de ces partitions de Kung Songs qui sont donc aujourd'hui des images absolument odieuses et choquantes. Mais si on avançait un petit peu dans l'exposition, voilà ce qu'on voyait, donc un autre panneau avec cette fois-ci des représentations de spectacles blackface, mais vous savez ce que je ferai, pendant que quelqu'un d'autre parlera, je chercherai ces images et je vous les montrerai tout à l'heure. Parce que ce qui était intéressant, évidemment, c'était la confrontation, ce que je voulais faire saisir, c'était la confrontation entre ces images et celles des artistes. Je vous montrerai donc ces images tout à l'heure. Mais la question donc s'est posée plusieurs fois au cours de l'exposition. Je pourrais donner d'autres exemples. Un des exemples aussi importants, c'est celui qui concernait les images de lynchage. Il y avait une section de l'exposition qui était consacrée donc à la question du lynchage, des lynchings. Et là aussi, il y avait un nombre assez important d'œuvres d'art réalisées par des artistes africains américains. Mais il y avait aussi ces images épouvantables, les cartes postales qui ont été publiées en masse à l'époque, au début du XXe siècle. Mais là aussi, les choses ne sont pas simples parce que ces images sont devenues aussi des images muséifiées aux États-Unis. Il y a un collectionneur qui avait collectionné ces images et il y a une exposition qui a eu un énorme succès à New York au début des années 2000, où il y avait ces cartes postales odieuses, et ensuite elles ont été acquises par un musée. Donc voilà comment, ce n'est pas du tout le centre de la question qui était traitée par Colorline, qui était vraiment, c'était vraiment un projet focalisé sur les artistes eux-mêmes, plutôt que sur ces questions, mais en même temps on ne pouvait pas ne pas les aborder.
Merci. Du coup, on pourra peut-être évoquer dans le débat avec la salle, parce que j'aimerais que les autres participants aient la parole, la question de la représentation de l'archive et comment on présente une archive justement de cet ordre-là dans une exposition et dans le temps contemporain. Et je pense à ça parce que Mathieu Kleyebe Aboninck, qui est artiste franco-guyanais, enfin guyanais, français, enfin bon, comme vous voulez, multiple quoi, disait dans la série Afrotrope qui a été diffusée au Centre Pompidou, donc sur le site du Centre Pompidou, sa difficulté en fait à utiliser des archives issues de l'histoire coloniale et donc quel engagement et quel travail ça supposait pour lui pour ne pas reproduire le discours de l'archive initiale. Je vais laisser la parole aux autres participants. Et ensuite, on peut peut-être revenir à ces questions dans le débat avec le public. Nora, Olivier, qui veut prendre la parole? Olivier, allez.
Et j'y vais. Voilà, bonjour, merci. Donc, oui, alors, on a donc en effet choisi d'intervenir sur quatre thèmes. Alors, le premier étant donc représenter les expériences africaines-américaines. Alors pour commencer, j'ai envie de réagir sur l'intitulé de la table ronde, c'est-à-dire exposer la lutte des Noirs américains pour les droits civiques. Alors ça me semble en fait renvoyer à une période en partie un peu restrictive, hein, et j'aurais envie, si vous voulez, d'élargir à l'idée d'une lutte pour des Noirs pour l'émancipation. Alors en anglais, Black Freedom Movement, pour élargir sur, y compris la période de l'esclavage. Alors, donc je vais essayer d'évoquer à travers quelques représentations donc ces questions, notamment la question des auteurs, des attributions. Là, je vous propose ici une première image, donc qui est, si vous voulez, attendez, je déplace mon, une silhouette découpée dans du papier en 1803 qui représente le portrait de Moses Williams. C'était donc un esclave au service de Charles Wilson Peel. Alors Peel, c'était un naturaliste, un artiste, et donc il est particulièrement connu pour avoir fondé le premier musée sur le sol américain à Philadelphie. Donc il a fait venir une sorte de machine à dessiner, un physionotrace, hein, que je vous montre ici, voilà, une espèce de pantographe qui dessine le contour d'un visage. Alors Peel, donc, c'était le propriétaire des parents déjà de Williams, Moses Williams, qu'il a affranchi en 1786. Et cependant, la loi imposait que son fils, le fils Moses Williams, ne soit libre qu'à l'âge de 28 ans. Alors voici ce qu'écrit le fils de Charles Peel sur Moses Williams. « C'est un fait curieux que jusqu'à l'âge de 27 ans, Moïse n'avait aucune valeur. » Moïse, c'est Moses, pardon. Avec l'invention du physionotrace, il lui prit la fantaisie de s'amuser à découper des produits produits par la machine, et il acquit bientôt une telle dextérité, une telle précision, que celle-ci lui fut confiée avec le privilège de conserver les frais de dessin et de découpage. Alors ainsi, donc, si vous voulez, cette silhouette, elle est particulière et doublement, parce qu'à la fois, elle identifie Williams par sa profession, donc d'artiste et d'artisan qualifié, mais aussi par le nom qu'il s'est choisi après son affranchissement, parce que tant qu'il était esclave, il n'avait pas de nom de famille. Donc, à sa libération, plutôt que de choisir le nom, comme on l'imposait souvent, le nom du maître, c'est-à-dire Peel, il a choisi le nom de son père. Alors, avec cette gravure, donc, en fait, il affirme doublement son identité, à la fois donc, en tant qu'homme libre, mais aussi en tant qu'artiste. Alors, donc la question de cette silhouette, l'attribution est aussi un sujet remarquable parce que les conservateurs ont tout au long du 19e attribué ce type d'œuvre au maître, c'est-à-dire par exemple dans ce cas-là à Charles Peel plutôt qu'à Moses Williams. Et aujourd'hui encore, des silhouettes de Moses Williams sont toujours attribuées par les conservateurs du musée aux deux auteurs, c'est-à-dire à Williams et à Peel. Donc ainsi, d'une certaine manière, l'esclave continue de disparaître en partie derrière son maître. Alors, derrière aussi la question de la question de l'attribution, je pourrais aussi évoquer à partir de ça la question des techniques, hein, pour montrer que une situation d'esclavage impose aussi telle ou telle technique. Hein, on a aujourd'hui une artiste américaine, Kara Walker, qui fait des magnifiques silhouette des énormes installations, notamment celle-ci qui était installée au MoMA. Alors, je propose son titre après, hein, qui s'appelle Gone, hein, une romance historique d'une guerre de sécession telle qu'elle s'est déroulée entre les cuisses sombres d'une jeune négresse et son cœur. Voilà, donc c'est une dénonciation de la violence et des violences sexuelles contre les femmes, et elle reprend volontairement les techniques de découpage, etc. Donc, pour montrer que le choix actuel, si vous voulez, de certains artistes africains-américains, c'est précisément de renvoyer à ces techniques qui ont été, dans un premier temps, utilisées par les esclaves. Ça me semble aussi intéressant. Alors, dans le titre d'une autre œuvre, elle met en avant l'accent sur les techniques. Hein, c'est-à-dire, nos outils étaient rudimentaires, mais cependant, nous avons persisté. Alors, bon, j'ai peut-être un peu donné l'impression que, en fait, il y avait dans cette époque de l'esclavage une profusion d'œuvres qui étaient favorables aux esclaves. Évidemment, c'est pas le cas. Hein. Là, je vous montre ce qui était plutôt les images dominantes. Alors, ce type d'image dont parlait Daniel Soutif, hein, après la révolte de Nat Turner en 1831, on a des représentations multiples qui montrent en fait les crimes horribles commis par les esclaves en révolte. Hein. Cette gravure sur bois se nomme donc « Épouvantable massacre en Virginie ». Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est qu'une fois réalisée, une partie de cette gravure a été découpée et a été réemployée dans un autre contexte, je vous montre l'image suivante, pour dénoncer cette fois-ci une révolte des Amérindiens, la révolte, la guerre des Séminoles, qui étaient des Indiens de Floride. Et bien, on reprend les mêmes révoltés, mais là, qui étaient dans l'image d'avant des Africains-Américains, et là, ils deviennent des Indiens qui massacrent encore une fois des Blancs. Voilà, donc ça, c'était quand même les représentations qui dominaient, et voilà, comme l'a dit, très bien dit Daniel Chotif, on trouve un certain nombre de ces images. Là, c'est le stéréotype de la violence déchaînée, de la bestialité qui est mis en avant. Voilà, donc tout un tas d'images assez nauséabondes. Voilà, donc on va d'ailleurs arrêter là-dessus. Je vais passer la parole peut-être à Nora Philippe.
Merci. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bon, formidable. Alors, pour ma part, en fait, j'ai pris connaissance d'une collection de poupées en 2015 à New York, et donc le projet de cette exposition ne portait pas en fait sur le traitement d'une période ou d'un thème, mais je partais d'objets. Et je partais dans une collection privée qui comportait des centaines de poupées qui elles-mêmes en fait avaient été constituées avec un axe et une intention bien précis qui était en fait justement, donc précisément, de ne sélectionner que des poupées qui étaient dans une représentation digne et belle des Africains-Américains. Donc, il n'y avait pas, en fait, la possibilité, j'y reviendrai aussi, d'identifier l'autorité, en fait, donc l'identité des personnes qui les avaient créées. Donc, on ne peut pas exactement dire qu'il s'agit de poupées africaines-américaines, mais il s'agit de poupées noires dignes et belles, donc très, très probablement fabriquées, conçues, créées par les communautés africaines-américaines, par des personnes africaines-américaines. Mais donc, finalement, on pourrait les qualifier de poupées noires antiracistes, c'est-à-dire qu'elles sont dans une... ces poupées ont été fabriquées dans une intention de se représenter soit en tant que personne digne, belle, ou en fait tout simplement normale. Donc cette collection de poupées était déjà en fait un ensemble qui traitait de la question de la représentation de soi. Vous le savez, qu'on soit un garçon, une fille, qu'on soit étrusque, égyptien, inuit, africain-américain ou parisien, sur plusieurs millénaires, la poupée est un miroir donc de soi, de sa culture, de sa communauté. C'est une projection de soi en tant qu'adulte. C'est un double, etc. Donc, on va pas revenir sur sur tous les invariants anthropologiques de la poupée, mais en tout cas, donc d'emblée, en fait, la poupée pose des questions de représentation de soi. Voilà. Donc, cet ensemble de poupées, effectivement, permettait de raconter une histoire non dite. De revalorisation en fait de l'être noir et du corps noir par des femmes que l'histoire a de toute évidence complètement effacées, invisibilisées. Donc je dis femmes parce que la création textile et la création d'objets destinés aux enfants étaient très vraisemblablement très majoritairement féminines.